spirituelle. Enquête spirituelle. Découvrez votre spiritualité avec Amy et Laurent. Enquête spirituelle. Le podcast, rendez-vous sur notre site www.enquête-spirituelle.com.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Enquête spirituelle pour cette nouvelle année 2014. Comment ça va, Amy?
Ça va très bien, Laurent. Et toi?
Ça va super bien. On va d'abord souhaiter la bonne année à tous les auditeurs qui nous écoutent en podcast dorénavant. Donc, vous le savez, maintenant, www.enquête-spirituelle.com et vous êtes dans la rubrique émission ou podcast et vous pouvez vous abonner soit par iTunes et ça se fait automatiquement, ça se télécharge dès qu'il y a une nouvelle émission radio. Vous pouvez directement écouter et même télécharger les émissions en ligne pour les mettre dans votre lecteur MP3. Et aujourd'hui, on reçoit qui, Amy?
Aujourd'hui, nous recevons Martine Klein. Ça faisait un petit bout de temps qu'on l'avait pas eu en studio. Donc, on l'a aujourd'hui au bout du fil. Martine a sorti son quatrième livre en fin d'année 2013. Bonjour Martine.
Bonjour Rémi, bonjour Laurent.
Comment vas-tu Martine?
Alors, ça va bien. Donc, comme Laurent disait, en ce début d'année 2014, permettez-moi de vous présenter une année pleine d'enrichissement spirituel surtout, qui va nous aider à avancer sur le chemin et puis bien un bien-être, quel que soit le bien-être recherché pour tout le monde, mais je pense que c'est la base principale pour pouvoir justement concrétiser nos rêves.
Oui, merci beaucoup Martine.
Les auditeurs t'en remercieront aussi. Alors tu viens nous parler aujourd'hui de ton nouveau livre qui est sorti, donc qui s'appelle 8 et 1 chemin vers la complétude. Mais juste avant, comme ça fait un moment que tu es venu dans l'émission, on va un peu te présenter, quel est ton parcours, comment tu en es venu, parce que tu fais de la numérologie, tu fais de l'astrologie karmique, tu fais plein de choses.
Oui, alors écoutez, voilà, donc bon, c'est vrai que je viens de sortir le quatrième livre là au mois de septembre 2013. Mon parcours est un peu atypique puisque bon, j'ai été un petit peu propulsée de ci, de là, notamment à l'étranger. Déjà toute petite, voilà, je cherchais le sens à la vie, puisqu'à 12 ans, je crois que ça a été le grand déclic, dans le sens où j'ai posé la question à maman, à quoi ça sert de vivre si c'est pour mourir? Et après, ça a été vraiment un long cheminement de recherche, de solitude aussi parfois, d'enseignement auprès de certains maîtres, bien évidemment, et qui m'ont guidée sur le chemin. Et puis, tout doucement, je me suis rapprochée de l'astrologie et de la numérologie, sachant que concernant cette partie-là, je n'ai jamais eu de professeur. Donc, c'est quelque chose que j'ai développé toute seule, au fur et à mesure du temps que je dédiais à tout cela, à étudier. Donc, j'ai découvert énormément de choses et de réponses. Et ensuite, j'ai désiré donc partager ce que j'avais trouvé. Donc avec les personnes qui se trouvent, que j'ai rencontrées sur le chemin. Ensuite, il y a eu l'écriture qui est venue vers moi. J'ai commencé donc à écrire un premier livre, puis un deuxième, puis un troisième, et puis le quatrième, donc effectivement, vient de sortir. Donc mon but, c'est simplement d'apporter dans la mesure de mes possibilités ce qui pourrait être de bon augure pour certaines personnes, parce que comme je dis, je n'ai pas la science infuse, je ne détiens pas la vérité, simplement ma vérité. Ce sont des choses qui m'ont aidé, qui m'ont servi à rebondir malgré les difficultés de la vie qui n'ont pas été moindres et qui me permettent, on va dire aujourd'hui, d'avoir, je peux le dire, une certaine quiétude de cœur, une certaine sérénité et surtout une acceptation par rapport au parcours, par rapport à tout ce qu'il m'a été donné de vivre.
Est-ce que tu veux nous rappeler les titres de tes premiers livres, peut-être ?
Oui, alors le premier, L'énergie est avec toi si tu deviens ce que tu es, est épuisé. Donc on ne le trouvera plus ni en librairie ni sur Internet. Le deuxième, le titre est Des valeurs essentielles pour la quête du bonheur. Le troisième, Le voyage humain ou l'équilibre de l'humanité. Et le quatrième, 8 et 1 chemin vers la complétude. Donc bien évidemment, au travers de ces titres, on a tout de suite un ressenti, une vision par rapport au contenu des livres.
Oui.
Tout à fait. Alors, parlons de ton dernier livre, justement, donc 8 et 1 chemin vers la complétude. Eh bien, de quoi ça parle en général?
Oui, alors voilà, je vais essayer de résumer, c'est pas évident parce que vous me connaissez et puis voilà, il fait quand même 250 pages, donc bon, ce qui s'est passé, effectivement, nous devons faire référence au passé. À la suite de la publication des livres, eh bien les choses sont venues vers moi et donc on m'a gentiment invité pour faire des conférences, bien évidemment par rapport à la matière des livres. Et donc tout doucement, les choses se sont mises en place. Donc c'est là où j'ai développé aussi l'astrologie et la numérologie karmique, comme tu disais tout à l'heure, Laurent. Mm-hmm. Et donc ce qui s'est passé, c'est que en fin de conférence, bien souvent, les personnes venaient me voir et me demandaient si dans mes ouvrages, que j'avais donc là en présentation, il y avait donc vraiment ce dont je venais de parler. Donc effectivement, oui, il y avait des références, mais elles n'étaient pas au point comme durant les conférences. Donc, il m'est venu à l'esprit de faire un nouveau livre en y incluant donc dans la première partie toute l'intégralité de la conférence sur le karma ou la responsabilité de notre vie. Donc, je vais résumer pour les personnes qui n'étaient pas présentes ou qui n'ont pas une grande approche par rapport au karma. C'est-à-dire que le karma, c'est tout simplement la loi de cause à effet, selon laquelle chaque vie est prédéterminée en fonction de nos actes passés. Et c'est vrai que sur notre chemin, il y a certaines choses qui sont écrites, et il y a celles que nous allons écrire. Donc l'acceptation va résider vraiment dans le fait de la vraie compréhension de cette loi divine, et que nous devons reconnaître de toute façon que tout ce que nous avons engendré dans le passé, c'est bien la conséquence de ce que nous sommes aujourd'hui. Et que tout ce que nous faisons aujourd'hui même, c'est un peu le prélude à demain. Donc, si nous avons envie que demain soit meilleur qu'aujourd'hui, eh bien, méditons un peu et prenons bien soin de ce que nous faisons aujourd'hui même. Ensuite, la deuxième partie, j'ai repris aussi l'intégralité de toute la conférence sur la numérologie karmique. Et c'est vrai que la numérologie karmique, c'était donc des conférences interactives où je faisais participer le public, les personnes présentes. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose de très précis, de très pointilleux, je dirais, et donc qui demande vraiment de travailler énormément dessus. Donc, en fin de compte, grâce à nos paramètres, je rappelle que bon, l'astrologie, bien évidemment, c'est par rapport aux positions planétaires de naissance, mais la numérologie va prendre en composante notre nom, notre prénom et notre date de naissance. Et rien qu'avec ces trois paramètres, nous allons être capables d'établir un bilan et de voir où nous avons des manques, où nous avons des excès, où nous avons des forces. Donc nous verrons tout de suite d'emblée les manques que nous donc devrons développer pour essayer de toujours revenir à cette notion d'équilibre et de mieux-être. Les excès, nous aurons bien évidemment à les temporiser, et nos forces, surtout, les travailler à bon escient. Et on se rend compte aussi que tout est en relation, et que la numérologie karmique est en relation avec la carte du battleur, qui est la carte numéro 1. Et c'est bien évidemment celui qui va travailler avec ses propres outils. Donc on voit bien là avec nos propres paramètres, que ce soit nos paramètres de naissance et toute l'expérience de notre vie. Mais aussi en relation avec la carte numéro 10, qui est la roue de la fortune, et qui correspond aussi dans le bouddhisme à la roue du samsara. Tout cela pourquoi ? Pour arriver à la carte 11, qui est cette fameuse carte de la force. Mais la force domptée, surtout dans un sens de maîtrise sur les événements, et non pas sur la force à l'état brut. Car la force à l'état brut, c'est quelque chose qui peut faire très mal, qui peut nous faire violence à nous-mêmes et qu'on peut faire violence aux autres. Par contre, la force dans le sens de maîtrise apportera toujours son lot d'équilibre et d'harmonie. Donc dans cette partie de numérologie karmique, à la fin, j'ai pris un exemple. J'ai pris un exemple et vraiment de A à Z, j'ai donc inventé un personnage et puis une date de naissance. Ce qui veut dire que le lecteur, non seulement a tous les paramètres, toutes les données, mais ensuite, pour quelque raison que ce soit, parce que je reconnais que c'est quand même très complexe, eh bien, j'ai pris un exemple. Comme ça, on peut se reporter pour voir si vraiment, voilà, il n'y a pas eu d'erreur dans l'étude.
D'accord. Et à ce jour, donc, je sais que pendant une petite période, tu avais arrêté, mais là, tu as repris. Tu es maintenant donc consultante, donc les gens peuvent venir également te voir. pour faire une étude auprès de toi.
Oui, donc oui, bien évidemment, au fur et à mesure de la conversation, voilà, on définira un peu pourquoi. Mais à l'heure actuelle, effectivement, voilà, donc je suis animatrice d'ateliers, où donc je fais des ateliers avec des groupes de personnes, où je parle bien évidemment de la matière de mes livres, dont j'y inclus tout, c'est-à-dire les enseignements que j'ai pu recevoir, de même que l'astrologie, la numérologie. Donc on travaille pour essayer d'apporter un maximum de facteurs de connaissances, parce que ça, ce sont des outils d'évolution. Donc personnellement, je crois qu'il y a cette part de choses qui est écrite, mais il y a aussi cette part de choses que nous allons faire, et tout ça nous renvoie toujours à cette idée de connaissance. Et le problème, c'est que lorsqu'il nous arrive des choses dans la vie, c'est quand nous ne comprenons pas. Donc là, nous pouvons être dans le rejet, dans le déni, dans la non-acceptation, parce que nous sommes dans une certaine forme d'ignorance. Et c'est vrai que comment peut-on se défendre contre quelque chose que nous ignorons? L'être humain ne peut pas, il est dans l'ignorance, il n'est pas à juger, ni à critiquer, ni à blâmer, absolument pas. Il est dans l'ignorance. Donc c'est vrai que tous ces outils d'évolution vont nous renvoyer à une certaine prise de conscience. Par quoi? Par la connaissance. Donc ce sont des outils d'évolution qui peuvent justement nous aider à comprendre le chemin que nous avons à parcourir tous ici, bas, dans ce monde terrestre.
Très bien. Eh bien, avant d'aller plus loin justement dans cette émission Enquête Spirituelle, on marque une première pause dans cette émission. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Enquête Spirituelle. Vous aimez la lecture? Procurez-vous un de nos magazines. Découvrez des dizaines d'articles avec des auteurs de tous horizons, ainsi que de nombreux témoignages. Cliquez sur www.enquête-spirituelle.com et rendez-vous dans la boutique. Enquête Spirituelle. Enquête Spirituelle, c'est l'émission en podcast téléchargeable sur notre site www.enquête-spirituelle.com avec Amy et Laurent.
De retour dans cette émission Enquête Spirituelle pour la deuxième partie de cette émission, avec aujourd'hui Martine Klein qui est avec nous pour parler de son livre 8 et 1 chemin vers la complétude. Et justement, on va entamer maintenant un peu plus le vif du sujet et parler un peu de la deuxième partie du livre qui rentre un peu plus dans le vif du sujet. Donc peux-tu nous expliquer tout ça?
Oui, alors au fur et à mesure du livre, effectivement, j'ai voulu donc développer aussi cette partie de richesse humaine, en parlant de certaines choses par rapport à la vie, à notre bien-être et à cette notion d'harmonie. Parce qu'on sait très bien que sans harmonie, rien n'est beau et rien n'est bien. Et qu'en fin de compte, là où il y a de l'harmonie, peu importe nos circonstances, elles seront beaucoup plus légères à vivre, même si elles étaient difficiles. Donc une chose qui est primordiale pour moi, c'est que sur le chemin, bien sûr, il y a des choses très enjouées, très agréables, et il y a aussi des choses très désagréables et très difficiles. Et je pense que le pardon est une clé du mystère, et que l'éthique du pardon est très chère à mon cœur, parce que c'est vraiment une libération. Et je travaille beaucoup là-dessus, dans le sens où je me dis que si on tend vers le fait de n'avoir jamais à demander pardon, ou que personne n'est à implorer notre pardon, vraiment là on va être dans le fait de juguler l'art de la délicieuse harmonie, c'est-à-dire que les choses vont se vivre beaucoup plus posément, beaucoup plus agréablement, et dans une énergie vraiment de sérénité. Ensuite, c'est vrai que je parle des anges matérialisés, je parle de l'âme, je parle des anges. Donc c'est vrai que nous sommes dans un monde subtil, nous ne sommes plus dans un monde grossier. Donc c'est vrai que ça peut faire peur ou ça peut interpeller les gens. Et cependant, je réflexionne beaucoup, dans le sens où je me dis que, en fin de compte, l'être humain, sans peut-être s'en rendre compte, s'exprime bien au-delà de ce monde qui est très subtil. Parce que tous les jours, nous nous exprimons au niveau des anges, que ce soit d'une façon ou d'une autre. Vous êtes bien d'accord avec moi que bien souvent on entend dire « tu avais un ange gardien » lorsque quelqu'un a été épargné d'un souci. Lorsque nous avons un moment de joie intense, on dit bien « j'étais aux anges » pour exprimer vraiment quelque chose de délicieux, quelque chose presque de parfait. On peut aussi appeler quelqu'un chaleureusement en lui disant « mon ange ». Et lorsqu'on voit une personne qui développe la vertu de la patience par rapport à son parcours de vie, on lui dit aussi « tu as une patience d'ange ». Et également, Eh bien, on peut dire aussi à quelqu'un qui nous reflète une sérénité, une paix sur son visage. Tu as un visage d'ange, parce que ça nous rappelle les anges. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est subtil, mais en fin de compte, qui est quand même là. Et nous en parlons, et consciemment ou inconsciemment. Ensuite, je médite sur la vie, et je me dis que la vie, en fin de compte, ce n'est qu'un théâtre. Nous avons tous des rôles à jouer. Un rôle et des rôles. Pourquoi ? Parce que parfois nous pouvons être acteurs, parfois nous sommes des spectateurs et parfois nous allons être le metteur en scène. Donc à mon sens, ce sont des rôles à tour de rôle, façon de parler, oui, que nous allons avoir à vivre suivant les circonstances de chacun. Mais le plus important pour moi, c'est de voir par rapport à ces rôles que nous allons jouer, comment est le décor, comment est le théâtre de notre vie. Est-ce que nous sommes en accord avec ce que nous voyons, avec ce théâtre de la vie? Est-ce que nous sommes en désaccord? Est-ce que nous nous y sentons bien? Est-ce que nous sommes dans une énergie de bien-être et du fait d'aller de l'avant? Ou alors est-ce que nous sommes là, plutôt dans le sens de lourdeur, et nous ne sommes pas en adéquation avec ce cadre de vie? Donc simplement, voilà, réfléchissons sur ce qui est notre théâtre de vie, notre environnement, cette scène de théâtre qui est là devant nous et qui nous appartient, et faire un petit bilan en sachant dans quel secteur nous sommes bien et dans les secteurs où nous sommes moins bien. Ensuite, j'y ai donc inclus comme une espèce d'évaluation que l'on pourra faire par rapport justement à notre degré de bien-être, en réalisant un petit bilan avec 12 phases, un peu d'auto-analyse. Toujours est-il qu'elles sont en relation, bien évidemment, aussi avec les forces de l'être humain. Parce que nous pouvons très bien être une personne avec une force mentale, ou une force physique, ou une force émotionnelle, ou intuitive. Et donc, c'est vrai que le tout réside toujours dans cette histoire d'harmonie, d'essayer d'équilibrer ces pôles avec lesquels nous devons composer. Mais ce qui est aussi très cher à mon cœur, c'est l'histoire de la vocation. Parce que, comme Honoré de Balzac a écrit, les vocations manquées déteignent sur toute l'existence. C'est-à-dire que quand on entend parler de vocation, eh bien, on a l'impression que c'est souvent défini comme un mouvement intérieur vers lequel une personne se sent appelée par quelque chose qui a un rapport avec soit le sacerdoce, soit une vie religieuse. Et alors donc, je me pose la question de savoir si la vocation, elle est seulement réservée à cette catégorie de personnes. À ce moment-là, je me dis qu'on rentre dans une certaine sélectivité et que c'est l'unique destination possible afin d'arriver à la réaliser. Et cependant, personnellement, je préfère la généraliser parce que je suis vraiment intimement séduite par le fait qu'en chacun de nous, il réside une prédisposition envers certaines aptitudes naturelles que l'on va définir comme une prédilection. Car nous sommes tous marqués par des préférences, appelés à les parfaire dans notre quotidien. Pourquoi ? Parce que le mot vocation, en fin de compte, il vient du latin vocation, de vocare, et qui veut dire appeler. Donc, en fin de compte, la vocation, c'est simplement aller vers nous, chercher les dons que nous avons, qui sommeillent en nous, et les faire ressortir à la lumière. Parce que c'est quelque chose qui va nous rendre heureux et qui va nous apporter un bien-être personnel, vraiment intime, et qui va nous donner un magnétisme et une énergie divine qui va nous élever au-delà de tout. Et c'est surtout une relation que nous allons vivre de cœur à cœur, mais avec nous-mêmes. Et c'est quelque chose qui va nous propulser à aller de l'avant. Donc je suis intimement convaincue, et on est bien d'accord que nous sommes tous prédisposés, ou on va dire doués, pour certaines choses. Et pour certaines choses, nous ne le sommes pas. Nous pouvons le reconnaître. Nous n'allons jamais exceller dans tout. Mais une chose est certaine, c'est que on ne peut pas nier que quand on excelle dans quelque chose, quand on a quelque chose que l'on réalise et que bien évidemment vient de notre source principale comme une vocation ou comme un don, nous allons avoir beaucoup de facilité à la réaliser. Et quand nous rebutons sur quelque chose, c'est parce que soit nous ne connaissons pas cette chose-là et nous en avons peur, ou soit parce que nous ne sommes pas intéressés par ça. Donc on voit bien qu'il y a une notion de cœur pour réaliser justement ce que nous avons au fond de nous. Et surtout dans la réalisation de ces projets et de mettre en pratique ce que nous avons au fond de nous, je me dis qu'en fait, qui veut faire quelque chose trouve des moyens, mais que qui ne veut rien faire trouvera toujours des excuses. Donc c'est aussi peut-être un défi dans la vie pour voir jusqu'où nous sommes capables, jusqu'où nous allons mettre toute notre volonté pour justement parfaire dans la matière ce que nous avons au plus profond de nous.
Oui, c'est exactement ça, Martine. C'est vraiment intéressant et c'est très parlant. Et c'est vrai qu'il faut se sentir prêt et avoir cette volonté, comme tu l'expliques. On a tous des choses à faire, on doit avancer dans la vie, mais c'est vrai qu'il faut se sentir prêt. Et vouloir avancer.
Et aussi la motivation, voilà, oui. Puisque nous sommes capables. C'est ce degré de motivation. Et dans le bouddhisme, on dit toujours que c'est la motivation principale qui compte. Il ne faut pas une grande motivation. À partir du moment où la motivation est là, même aussi minime soit-il, aussi petite soit-il, si nous avons une sincère et pure intention dans cette motivation, une chose est certaine, la vie me l'a démontré, c'est qu'au détour du chemin, la récompense est là et que les choses se mettront en place tout doucement. Donc il ne suffit pas d'avoir une grande motivation, mais une bonne motivation.
Exactement, je suis d'accord avec ça.
Moi aussi. Alors, parlons peut-être juste, moi c'est l'interrogation qui me vient, d'où vient le titre de ton livre ? 8 et 1 chemin vers la complétude.
Alors,
ça peut être 8 et 1, est-ce que ça fait 9 ? Est-ce que, voilà, explique-nous tout ça.
Oui, alors c'est vrai que ça peut vous faire parler et vous faire penser effectivement à la numérologie. Hein, donc, en fait, la complétude, c'est simplement une propriété d'une théorie déductible constante où toute formule est décidable. Et j'insiste beaucoup là-dessus, décidable. Pourquoi ? Parce que je crois forcément à la force justement du libre arbitre. C'est que à cette capacité que l'être humain a à rebondir, et nous pouvons le constater dans la vie de tous les jours. Il suffit d'ouvrir la télévision, il suffit de regarder autour de nous. Les personnes qui sont confrontées à des handicaps, à quelque chose de dramatique, à quelque chose auquel parfois on ne trouve pas de mots pour exprimer, des bouleversements vraiment drastiques dans la vie et cette capacité qu'ils ont à aller de l'avant. Donc on voit bien que la force intérieure et le choix est toujours présent face à nous. Nous n'avons pas tous les choix, mais nous avons le choix de décider que notre vie soit plus harmonieuse, plus légère, relativisée. Bien évidemment, on entend beaucoup cette parole-là, mais ouvrons surtout les yeux par rapport à la vie. La vie, la mort, je viendrai après en parler. Mais donc par rapport à cette question, par rapport à l'éviter un chemin vers la complétude, bien évidemment je me suis inspirée du chemin de vie, du chemin au niveau de la numérologie, mais en essayant du mieux que je pouvais à essayer de voir un petit peu tout ce qui arrive dans notre vie et donc dans tous les secteurs, comment nous pouvons arriver justement à essayer d'équilibrer chaque partie de ces 8 et 1 chemins. Et j'insiste beaucoup sur les 8 et 1 chemins et non pas sur 9. On verra pourquoi enfin. Donc, si vous me le permettez, Laurent et Amy, j'enchaîne maintenant avec ces 8 et 1 chemins vers la complétude.
D'accord, mais juste avant d'enchaîner avec les 8 chemins, on marque une deuxième pause dans cette émission. On se retrouve dans quelques petits instants pour la suite. À tout de suite.
Vous aimez l'association Enquête Spirituelle ? Enquête Spirituelle ? Soutenez-nous et faites un don via notre site internet www.enquête-spirituelle.com. Enquête Spirituelle. Enquête Spirituelle. Découvrez votre spiritualité avec Amy et Laurent. Enquête Spirituelle.
De retour dans cette troisième partie de cette émission Enquête Spirituelle. Vous nous écoutez en podcast partout dans le monde. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux, on le dit à chaque fois, mais forcément ça s'ajoute, ce sont les nombres. www.enquête-spirituelle.com. Vous cliquez dans la rubrique podcast émission pour réécouter toutes les anciennes émissions. Également, pourquoi pas réécouter des anciennes émissions de Martine Klein qui était venue parler de la numérologie, de l'astrologie, de plein d'autres choses, de son parcours également. Ce sera à réécouter et pour l'instant on parlait de un nouveau livre, donc 8 et 1 chemin vers la complétude. Et justement, Martine, tu vas nous expliquer pourquoi 8 et 1 chemin.
Voilà. En fait, la première voie, j'appelle ça un chemin ou la voie, peu importe, la première voie est de réaliser notre individualité. Mais en réfléchissant sur le fait de ne porter aucun préjudice aux autres. C'est-à-dire que à partir du moment où nous agissons de cette façon-là, nous avons ce principe de liberté. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons parce que nous nous réalisons, mais nous ne portons préjudice à personne. La deuxième voie va nous parler du fait de nous unir en trouvant notre place dans le couple, dans l'association, auprès des autres, parce que de toute façon, l'être humain vit seul s'il vit à moitié. Nous sommes quand même des êtres humains et nous sommes là pour partager. Mais dans cette union, on va dire de quelque nature qu'elle soit, nous n'avons pas à tomber dans une certaine dépendance affective. Mais c'est subtil, parce que nous ne devons pas non plus faire abstraction de nous-mêmes. Et de ce fait-là, il faut contrôler un peu notre vulnérabilité. Et c'est seulement à ce moment-là que nous réussirons à trouver notre place avec les autres, mais seulement donc en réalisant notre propre affirmation. Et bien évidemment, en respectant l'affirmation des autres. La troisième voie va nous parler de cette communication. Cette communication qui est quand même ce qui régit le monde, la communication à bon escient. Et prendre conscience de nos paroles, que nous avons quand même le langage et que nous avons cette capacité justement à partager avec les autres de cette façon-là. Donc évitons de parler pour ne rien dire, d'être dans le jugement. Nous devons bien évidemment tendre vers le fait d'accepter les opinions d'autrui et de prendre en considération un fait qui est certain, c'est que tout le monde jamais ne pensera comme nous. Donc sachons partager dans une bonne communication et sachons écouter. La quatrième voie va nous parler, bien évidemment, de construire ici dans cette vie, notre vie, donc dans la matière. Bon, nous avons tous des désirs, peu importe lesquels. Certaines personnes vont avoir envie de travailler toute leur vie pour avoir une jolie maison, un beau jardin. D'autres n'auront pas envie de structurer de cette façon-là et auront envie plutôt de voyager. Peu importe, cela n'a pas d'importance. De toute façon, nous construisons certaines choses, qu'elles soient plus tangibles ou pas. Mais nous devons aussi laisser chacun être lui-même. Donc nous n'avons pas non plus à imposer nos règles et nos lois en ce qui concerne nos structures de vie. Nous devons essayer d'être souples en disciplinant cette rigueur que nous avons par rapport à nos choix, à nos besoins et à ce que nous voudrions avoir dans la vie en tant que matérialité. Et, mais d'un autre côté, soyons conscients aussi que nous devons prendre soin que cette notion d'envie, de désir, de souhait que nous avons envie d'avoir donc à jouer dans la matière, peu importe, au travers de, comme je dis, de matérialité, de maison ou de voyage ou de se faire plaisir d'une façon ou d'une autre, il faut faire attention aussi de ne pas rentrer dans un carcan de routine, il faut s'ouvrir à autre chose. Parce qu'en fin de compte, il faut être capable aussi non seulement d'avoir acquis quelque chose, mais de savoir que demain nous pouvons le perdre. Et c'est donc cette notion d'être capable d'accepter aussi l'inconnu. Parce qu'on sait tous que ce que nous avons aujourd'hui, demain il suffit qu'il arrive un tsunami, une catastrophe, quoi que ce soit, et malheureusement nous avons tout perdu. Donc non pas non plus en jouir, en profiter, savourer ce que l'on a, mais bien évidemment ne pas trop s'attacher, parce qu'on ne sait pas demain ce qui peut arriver. La cinquième voie est en rapport avec notre responsabilité au sujet de ce grand sens du changement et du mouvement qui se fait jour, tous les jours. Pourquoi ? Parce que de toute façon, nous sommes obligés d'aller de l'avant. C'est la condition sine qua non de l'être humain. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont une tendance à aller fortement de l'avant et d'autres moins. Donc nous devons parfois cultiver notre modération et nous adapter autant que ça se peut au rythme de ceux ou de celles qui vont être auprès de nous et qui sont un peu plus lents que nous. Et comme je le dis toujours, c'est bien évidemment au TGV de ralentir face à l'omnibus, parce que le contraire est impossible. L'omnibus ne rattrapera jamais le TGV. Donc si nous avons un besoin de changement, d'aller de l'avant, etc., acceptons aussi de laisser une part de cette liberté. Pourquoi ? Bien parce que ça pourrait être un profit aussi, au profit du bonheur à partager avec les autres. Donc on peut peut-être laisser un peu cette notion de changement et de mouvement si on peut le partager avec les autres. La sixième voie va nous faire comprendre que ce besoin d'harmonie ne doit pas non plus nous faire accepter les choses que l'on ne désire pas, parce que nous avons horreur du conflit. Et parfois, effectivement, nous préférons nous taire que de dire les choses, parce que nous avons horreur du conflit et nous avons peur de nous confronter justement. Et c'est ce doute et cette peur qui vont vraiment nous bloquer. Donc l'idéal, ce serait de pouvoir exprimer nos idées en toute quiétude face aux autres. Bien évidemment, j'en fais référence avec la troisième voie qui est la communication. Lorsque nous disons à quelqu'un « c'est de ta faute » ou « tu vois, c'est parce que toi », là, on rentre dans l'accusation. Donc la personne, effectivement, va se sentir automatiquement agressée, consciemment ou inconsciemment, mais il va y avoir une réactivité. Par contre, nous pouvons exprimer nos désirs et nos souhaits ou un mal-être ou quelque chose à partir du moment où nous le faisons d'une autre façon, en parlant justement avec notre sentiment et non pas l'extérieur, c'est-à-dire en vocalisant les choses par rapport à notre ressenti. Là, au lieu d'accuser, au lieu de rejeter, nous allons exprimer nos sentiments. Et donc, à ce moment-là, quand nous arrivons à cet état-là, nous pouvons dire tout ce que nous voulons aux autres. Parce que nous parlons depuis notre fort intérieur, depuis notre essence intérieure. Et donc, nous ne sommes plus dans l'accusation. Nous sommes simplement dans un sentiment, une émotion qui a été donc subie ou ressentie et que nous avons envie de partager avec les autres. Et de ce fait-là, il faut surtout essayer de ne pas avoir peur et d'être dans le doute. Donc ça nous renvoie toujours, toujours à cette notion de travail sur soi et de maîtrise. La septième voie va nous parler de notre quête intériorisée du sens caché des choses et du sens de la vie. Et je suis intimement convaincue que à un moment donné, l'être humain, que ce soit par choix ou que ce soit par obligation, aura à se positionner sur le sens de sa vie. Soit que des circonstances l'y obligeront, soit parce que lui va avoir un envie et il ira tout seul vers ce cheminement. Mais lorsque, justement, nous allons dans ce sens, parfois il nous arrive de trouver des choses, de comprendre des choses. Et donc, il ne faut pas tomber dans le piège de rester trop introverti, parce que cela n'aurait pas le sens désiré, parce que tout ce que nous allons pouvoir découvrir par rapport à nous, par rapport à la vie, même si nous n'avons pas la science infuse, on ne sait pas si demain nous ne pourrons pas justement, par rapport à ce que nous avons découvert, ressenti, en transmettant aux autres, eh bien peut-être aider une personne qui se trouvera sur notre chemin. Donc nous devons oser partager afin de contribuer de cette manière à transmettre un peu de cette spiritualité, de ces choses que nous avons justement trouvées, découvertes au fond de nous, tout en sachant que nous n'avons pas la vérité. Nous n'avons pas la vérité infuse, nous n'avons pas la science infuse, nous avons notre vérité, mais nous n'inculquons pas, nous n'obligeons pas, nous transmettons simplement et nous laissons libre choix aux autres de prendre ce qui les intéresse, ce qui résonne en eux. Ensuite, la huitième voie va nous renseigner sur notre pouvoir, notre force intérieure, qui peuvent toujours être dirigées dans le but de protéger les plus faibles, parce qu'il y aura toujours quelqu'un supérieur à nous et quelqu'un inférieur à nous dans quelque domaine que ce soit. C'est le principe de hiérarchie. Et donc, si nous avons été dotés, si la nature nous a dotés d'une force, qu'elle soit physique, matérielle, spirituelle, animique, peu importe, eh bien, pourquoi ne pas justement aider les autres personnes qui sont un peu plus en faiblesse par rapport à ça, parce que nous avons tous besoin des autres. Et un jour ou l'autre, nous sommes dans une position de faiblesse, et un autre jour, nous sommes dans une position plutôt de force. Donc, pourquoi ? Pour toujours revenir à essayer de rétablir une justice d'équilibre. Ça, c'est très important. Et j'arrive à ma neuvième voie. C'est tout ce qui va concerner, bien évidemment, l'irrationnel, l'impalpable, tout ce que nous pouvons capter que par ressenti, émotion, sentiment, qui parfois, d'ailleurs, n'a pas de mots parce qu'il est vécu autrement. Ça peut être aussi notre bagage inné qui vient de vie antérieure, et que nous devons employer afin de nous confondre avec les autres pour une noble cause. Pourquoi ? Il s'agit simplement d'ouvrir notre cœur vers l'extérieur, vers autre chose, et que prendre conscience qu'en fin de compte, tout objectif à caractère personnel sera tôt ou tard voué à l'échec, voire peut-être même à des catastrophes. Parce que nous devons vraiment travailler ce côté matérialiste, égoïste, vers plus de partage humanitaire, c'est-à-dire un collectif. Et ça me renvoie au principe de l'être individuel et au principe de l'être de l'unité universelle que j'enseigne dans mes ateliers, lorsque je parle des 25 principes d'unité. Donc, en fait, l'être individuel, il faut reconnaître qu'à l'intérieur de chaque être humain se trouve l'essence même de l'être universel, parce que nous serons reliés à l'univers dans lequel nous habitons, mais qu'en même temps, il y a le principe d'unité universelle, parce qu'il faut reconnaître que nous faisons tous partie d'un grand tout dans cet univers de la vie, et nous appartenons à cette planète. Et c'est bien évidemment quelque chose de bien plus grand que notre petite personne. Il s'agit du monde avec tout ce qu'il comporte. Et cela va nous renvoyer forcément à quoi ? À une certaine forme d'humilité. Parce que nous voyons que toutes nos consciences réunies ne sont en fin de compte qu'une seule et même énergie. Et qu'il n'y a pas de séparation. Et que tous les êtres ici sur cette terre appartiennent à une certaine conscience universelle. Donc, autant s'unir, comme on dit, l'union fait la force. Et si chacun pouvait apporter un peu de son énergie positive, parce que nous avons tous de l'énergie positive et nous avons tous parfois de l'énergie négative, mais je tends vers l'énergie positive, nous pourrions effectivement rétablir un peu plus d'équilibre sur cette planète qui en a tant besoin.
Eh bien, c'est bien expliqué tout ça. Mais alors, la petite question que tu n'as peut-être pas expliquée, on va dire clairement, pourquoi 8 et 1 et pas 9 ?
Voilà, alors je reviens à ce que je viens de dire. Les 8 chemins, quand on voit le premier, c'est le 1. Le 2, c'est reconnaître l'autre avec les autres. Le 3, la communication. Le 4, c'est structurer dans la matière. Le 5, c'est notre découverte, le mouvement. Le 6, c'est l'amour. Le 7, c'est la quête intériorisée. Et le 8, c'est trouver cet équilibre. Je rappelle que le 8 est la boucle du haut et du bas. Mmh. Donc la boucle du haut est en rapport avec notre partie spirituelle. Et la boucle du bas est en rapport avec notre partie matérielle. Et pourquoi j'ai rajouté le 9, je refais donc référence à cette histoire d'être individuel et cette conscience universelle, c'est-à-dire cette unité universelle. Et j'ai voulu séparer, parce qu'en fin de compte, jusqu'au 8, nous arrivons ici, et petit à petit, on voit bien que l'on rentre dans cette partie spirituelle pour terminer avec cette énergie cosmique, qui pour moi représente le 9, tout ce qui est irrationnel, l'impalpable, et c'est pourquoi j'ai voulu donc séparer.
Ah bien, c'est bien clair en tout cas.
Ça va.
Tout à fait. Alors on va marquer une dernière pause dans cette émission Enquête spirituelle. On se retrouve dans quelques petits instants. A tout de suite.
Toute l'actualité de votre association, c'est sur la page Facebook Enquête spirituelle ou sur le site www.enquête-spirituelle.com. Enquête spirituelle, intuition, ressenti, paranormal, énergie, destin, réincarnation, médium, voyance, radiesthésie, spiritualité, tous ces sujets et bien d'autres, c'est maintenant dans votre émission.
De retour dans cette émission Enquête spirituelle pour la dernière partie de l'émission avec Martine Klein. Donc Martine nous parle aujourd'hui de son dernier livre sorti, 8 et un chemin vers la complétude. Et là tu vas nous expliquer la dernière partie de ton livre. Martine.
Oui, alors bon, donc bien évidemment là je dois faire un peu référence à mon histoire et à ma réalité. Donc bien évidemment je n'écris que sur des choses que je connais, je n'écrirai jamais sur ce que je ne connais pas. Mmh. Et comme je dis, je ne parle que de choses que je sais, sinon je n'en parle pas. Donc la dernière partie, c'est vrai que j'ai voulu parler de la souffrance, de la maladie, de la souffrance aussi spirituelle, psychologique, peu importe, et puis de l'accompagnement, l'accompagnement en fin de vie, ce que nous pouvons faire et quel peut être notre regard et notre apportation à ce moment-là. Et donc, bon, cette dernière partie pourrait être en référence au fait de comment donner aussi un sens à sa vie quand on a perdu une personne chère. Donc là, tout doucement, je rentre un petit peu, on va dire, dans mon histoire personnelle, surtout en fin de livre. Et donc, je parle du départ vers un ailleurs d'une personne chère. Et j'ai intitulé simplement « Un aller simple vers la mort ». Parce que va où tu veux et meurs où tu dois. Et c'est vrai que cela ne fait aucun doute que notre âme est propulsée sur cette terre et elle ne possède qu'un seul ticket. Et pour moi, c'est un aller simple vers la mort. Parce que quoi que nous fassions, quelles que soient nos circonstances, les chemins empruntés, les directions que nous allons prendre, il est certain qu'aucune alternative de retour à la case départ n'est possible. Et nous avons toujours à aller de l'avant, coûte que coûte. Et là, je me dis que c'est vraiment là une vérité que nous puissions tous, les êtres humains réunis, reconnaître à l'unisson. et personne ne peut contredire cet état de fait. C'est une évidence extraordinaire. Et c'est une chose au moins où tout le monde est d'accord. Donc, nous voilà débarqués sur cette terre en tant qu'entité spirituelle. Grâce à quoi ? À ce corps matérialisé, bien évidemment. Et c'est vrai que nous venons, le fait est là, nous venons tous de quelque part et nous allons tous nous diriger vers un ailleurs. Chacun suivant sa propre évolution, bien entendu. Mais c'est vrai que dans cette profondeur, dans la profondeur de cet aller simple, nous sommes tous égaux, dans le sens où nous allons tous arriver seuls au monde et nous allons tous repartir seuls au monde. Comme je le dis toujours, même dans le cas de jumeaux, c'est chacun son tour. Mais en réflexionnant et en méditant là-dessus, nous voyons bien ici que la naissance, la vie et la mort sont intrinsèquement liées entre elles. Donc, que pouvons-nous en déduire, en fin de compte ? Eh bien, on pourrait dire que vivre cet entre-deux, cette présence ici et maintenant, du mieux que possible. Donc, vivre l'instant présent, savourer la vie, et surtout prendre conscience de ce bien si précieux qui nous a été donné. Et dans cet entre-deux que j'appelle donc l'ici et maintenant, en fait, cet entre-deux, ce n'est qu'autre que la chronique d'une mort annoncée. Et nous nous débattons, l'être humain se débat contre bien des méfaits. Et souvent, nous nous plaignons. Et je me dis qu'il faut voir l'énergie que nous allons déployer, que l'être humain va déployer lorsque la mort va venir frapper à la porte ou que lorsqu'on va avoir une menace de mort au-dessus de notre tête. Donc, ce qui est très important pour moi, c'est que la vie m'a enseigné, de par ma propre expérience, bien évidemment, que ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui sont si importants, mais ce que nous allons en faire, comment nous allons pouvoir les aborder, les accepter, de quelle manière et quelle est l'énergie que nous allons déployer. Est-ce que nous allons être dans la positive ou dans la négative attitude, dans l'acceptation ou dans le rejet? Donc c'est vrai que parler de la mort, c'est très épineux parce que c'est un thème qui peut faire très très peur et qui peut être tabou encore aujourd'hui. C'est très difficile parfois pour certaines personnes lorsqu'on aborde ce sujet-là. Mais c'est vrai que, honnêtement, j'ai une prédisposition à parler de l'envol d'un être cher. Et comme il était écrit dans la Bible, de toute façon, souviens-toi, homme, que tu es poussière et que tu ne retourneras à la poussière. Donc, en fait, est là. C'est vrai que tôt ou tard, nous serons tous confrontés à une expérience comme celle-là. Et lorsqu'un être cher s'envole vers un ailleurs, il est évident que notre monde ne sera plus jamais comme avant. Malgré la souffrance de la perte, nous sommes dans l'obligation de continuer le chemin, mais comme unique base, une réadaptation face à la vie, malgré l'absence et ce vide. Et rien n'est aussi difficile que cela, c'est certain. Mais si nous considérons que nous appartenons à un cycle, que rien ne dure éternellement, eh bien évidemment, peut-être que ce passage sera moins douloureux. Et à ce moment-là, non seulement nous allons peut-être calmer un peu notre peine, notre désarroi, notre extrême désolation, mais en même temps, nous allons aider cette âme à s'élever dans l'au-delà, en ne la retenant pas ici-bas avec notre chagrin. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître que le départ d'un être cher vers la lumière, c'est toujours quelque chose qui va nous affecter en plus ou moins grande partie. Bien évidemment, par rapport à quoi ? Par rapport à notre degré d'affection et de dépendance que nous avons entretenu durant son séjour auprès de nous. Il y a les départs que l'on attendait de par la maladie, il y a ceux qu'on n'attendait pas par un accident, par quelque chose de radical, de drastique. Mais en fin de compte, on a beau se préparer, je pense qu'on n'est jamais prêt. Parce que il y a aussi ceux qui vont partir beaucoup plus jeunes, les personnes plus âgées, mais même en fin de compte, c'est toujours trop tôt. Parce que l'homme veut toujours plus et on n'est jamais prêt. Donc c'est vrai que nous devons apprendre de cette expérience. Et je me dis que c'est notre regard, sur cette mort, mais pas, bien évidemment sur cette vie qui va faire en sorte de notre capacité à rebondir et la façon dont nous allons réagir par rapport à ça. Et c'est aussi pourquoi ce regard. Parce qu'on se rend compte aussi que c'est curieux, il y a des endroits où la mort est chantée, où les personnes qui accompagnent le défunt s'habillent en blanc, où les chants sont joyeux, parce qu'elles considèrent que cette âme est en train d'aller vers son chemin et vers la lumière. Et c'est toujours pareil, parler de l'âme c'est très très tabou, et cependant, quand on y pense, tout être humain est doté d'un corps physique qui va représenter notre matière, l'expression, d'un esprit qui sera notre conscience et d'une énergie qui est cette âme. Donc en fait, on peut se poser la question de savoir si l'âme, en fin de compte, ce ne serait pas l'intelligence du cœur ou le souffle qui va au-delà de toute vie. Et c'est comme pour les anges, on emploie aussi de nos jours des expressions par rapport à la mort. Et par contre, quand vous abordez le sujet avec certaines personnes, bien sûr, il y a de la peur, il y a du rejet, il y a le tabou. Et cependant, vous êtes bien d'accord avec moi, c'est que quand quelqu'un part, on dit bien paix à son âme, en espérant que justement cette âme repose en paix. Quand quelqu'un est dans le désarroi, on entend dire il erre comme une âme en peine. Parfois, nous avons de la mélancolie ou bien une certaine nostalgie. Et là, on va s'exprimer en disant j'ai le vague à l'âme. Voilà, donc on va dire aussi de ce côté-là qu'on est en rapport avec notre âme. Il y a parfois des personnes qui n'ont aucune réactivité par rapport à quelque chose de transcendant que vous leur racontez, quelque chose de difficile. Et vous allez l'exprimer en disant, comme il n'y a eu aucune réactivité, eh bien, aucun état d'âme. Donc on voit bien aussi que l'être humain emploie plus facilement ces choses, mais en est-il vraiment conscient? Et en fin de compte, je pense que ce qui est très important aussi, c'est que c'est se préparer à la mort, c'est vivre plus consciemment la vie, plus intensément la vie. Donc je ne parle pas d'intensément dans le sens de folie, je parle d'intensément vraiment dans le sens de se réaliser, de trouver le chemin de son âme. Nous avons tous à trouver le chemin de notre âme. Peu importe quel chemin, il n'y en a aucun qui est supérieur à l'autre. Mais le principal, c'est de le trouver. Et je pense très sincèrement que notre regard sur la mort va nous aider, justement si un jour nous sommes confrontés au départ d'un être cher, à accompagner cette personne du mieux que possible. Il y a des étapes indispensables, bien évidemment, parce que nous pouvons justement pleurer son absence. Mais quand nous pleurons l'absence d'un être cher, et en fait, c'est parce que nous nous trouvons dans l'antichambre de l'acceptation. Et c'est un peu aller à l'encontre de nous-mêmes. Il est vrai que nous perdons nos repères et nous ne maîtrisons plus. Et là, ça nous renvoie à notre finitude, que nous sommes vraiment peu de choses sur cette terre et que nous pouvons tout avoir aujourd'hui et demain, nous pouvons tout perdre. Donc, c'est vrai que nous pouvons être dans les regrets. Et on est bien d'accord que pour avoir des regrets, il faut avoir des envies. Donc je me dis, n'attendons pas l'échéance irréductible de la mort, parce qu'en fin de compte, c'est nous qui allons voyager l'âme en peine, pendant que cette âme va s'élever vers son chemin, vers ce qui lui est donné d'aller vers la lumière. Mais il y a une chose aussi qui est très importante, c'est que, en fait, si nous nous préparons à cela, et si nous prenons conscience de cela, nous allons donc pouvoir vivre cet entre-deux de la façon la plus heureuse possible. C'est-à-dire, au moins, au moment où nous aurons à nous confronter à notre propre mort, eh bien, nous pourrions donc nous préparer dans le sens où, quand nous reverrons la relecture de notre vie, puisque c'est ainsi, nous revoyons toute la relecture de notre vie, eh bien, que cette relecture nous soit douce à nos yeux, qu'elle soit sereine, parce que nous aurons beaucoup plus de facilité pour nous élever vers un état supérieur de plus en plus haut, bien évidemment, puisque chacun partira. Nous devons accepter, mais ce qui est très important aussi, c'est que, au lieu de pleurer le départ d'un être cher vers la lumière, souvenez-nous de ce que cette personne nous a laissé en héritage, de ce que nous pouvons faire avec ce qu'elle nous a transmis. Et que, je me dis symboliquement parlant, ça me fait penser à une image, c'est que lorsque je suis au bord de la mer, et que je vois l'astre du soleil se coucher à l'horizon, et c'est vrai, j'ai toujours eu une pensée, ça m'a toujours interpellée, et c'était quelque chose de magique pour moi, au plus lointain que je m'en souviens, c'est que je me disais, à présent, eh ben, tu vas te lever pour d'autres personnes, et tu vas les éclairer de ta lumière, tandis que maintenant, vers moi, vient l'astre de la lune, qui vient donc me visiter, parce que je ne voyais plus le soleil, mais je savais au fond de moi qu'il continuait d'exister, et qu'il allait se lever pour d'autres regards, vers un ailleurs que je ne pouvais pas voir. Et c'est ainsi que je me souvenais de son énergie et que je m'en imprégnais. Donc pour moi, le soleil continuait à être dans mon cœur. Donc pour moi, c'est un peu cette symbolique que je prends là maintenant pour signifier cela. Qu'en fin de compte, c'est vrai que nous avons mal parce que nous avons, voilà, nous ne pouvons plus voir cette personne physiquement, elle ne nous répond plus, nous ne pouvons plus la toucher. Mais d'un autre côté, nous pouvons avoir accès. Nous pouvons avoir accès à une autre dimension. Et ce qui est même curieux parfois, c'est que si nous ouvrons notre cœur et notre esprit à cette autre dimension, nous pouvons avoir la sensation que cette personne, de là où elle se trouve, elle est encore plus présente auprès de nous que quand elle était ici sur cette terre à partager un peu de son temps avec nous. Et c'est pour ça qu'au regard de ma vérité, nous n'avons pas le temps pour vous expliquer. Simplement, je ferai une parenthèse. Le 25 mars 2013, maman est partie vers la lumière. Et il m'a été donné de vivre une expérience que jamais un seul instant, une seule seconde, j'aurais pu imaginer de vivre. Mais peut-être m'étais-je préparée, toujours utile que c'est un cadeau divin que j'ai eu. Et en fait, en vérité, de par ma propre expérience, je peux affirmer, parce que je l'ai vécu, qu'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de matière qui n'existe, et il n'y a pas de séparation. Et nous pouvons transcender toutes les dimensions et toutes les barrières que nous infligeons nous-mêmes par un esprit trop rationnel ou cartésien. Et que le fait d'actualiser une pratique d'amour et de compassion et d'aide va justement nous encourager à adoucir la dureté de la vie. Et de ce fait, nous sera donné un cadeau, c'est-à-dire que nous allons vivre plus paisiblement ce transfert. Et aussi très important, lorsque quelqu'un part, il y a une chose qui va nous arriver, c'est que les épreuves dans le déroulement d'un deuil nous permettent toujours de revisiter notre vie. Et c'est parfois aussi même un électrochoc, en nous faisant prendre conscience de vivre au mieux que possible cette vie. Et à ce moment-là, nous allons aller beaucoup plus vers de l'apaisement, de la sérénité et surtout de la réalisation. Donc, je pense que se préparer à la mort, c'est vivre encore plus consciemment la vie.
Eh bien, c'est un beau parcours. En tout cas, tu nous expliques plein de bonnes choses et ça va parler à plein de gens. Je veux dire, moi en premier, j'en ai déjà parlé également dans les émissions suite au décès de mon frère également. En tout cas, ça touche bien profondément, on va dire.
Voilà. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas le temps matériellement, mais bon, le 19 janvier, je suis auprès de vous en conférence.
Tout à fait, voilà.
Simplement, je voudrais terminer simplement avec un petit résumé. Mm-hmm. Je suis intimement convaincue vraiment que, en fait, il est plus facile d'accepter l'événement du départ d'un être cher vers la lumière. Et je dis l'événement du départ d'un être cher vers la lumière parce que je n'aime pas ce mot de deuil. On nous demande de faire un deuil, mais on ne fait jamais son deuil. On compose autrement, voilà tout. Parce que les défunts emportent un peu de nous et ils nous laissent un peu d'eux. Donc, pour justement accepter l'événement du départ d'un être cher vers la lumière, lorsque nous vivons dans l'amour inconditionnel et non pas dans l'amour possession et l'amour attachement, alors nous pouvons passer de ce cap plus aisément. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de conditions, il n'y a pas d'exigence, il n'y a pas d'appétence, il n'y a pas de limite. Et on ne demande rien, c'est un sentiment et c'est quelque chose que l'on vit à l'intérieur de nous et qui est tout simplement et sans explication aucune. Donc je pense que cette histoire d'amour inconditionnel va beaucoup nous aider et nous faire comprendre justement que nous pouvons continuer à aimer, ce n'est plus fort encore que quand cette personne était ici-bas.
Eh bien, merci beaucoup Martine. Alors, pour les gens justement qui veulent se procurer ton livre, comment doivent-ils faire ?
Alors, justement, aujourd'hui même, vu ma nouvelle situation, je suis donc en auto-entreprise et donc j'ai écrit le livre à compte d'auteur. Mm-hmm. Donc, le livre, je tiens à préciser, c'est important parce que dans le passé, des personnes étaient en conférence et puis elles ont voulu le trouver sur Internet et en librairie et ne l'ont pas trouvé. Vous ne trouverez pas le livre ni sur Internet, ni en librairie parce que je suis à compte d'auteur. Donc, en fait, il suffit simplement de prendre contact avec moi. Dernièrement, ça s'est produit. Mmh. Une personne d'ailleurs qui avait écouté votre émission dans le sud de la France a pris contact avec moi et voilà, donc je lui ai adressé mon dernier manuscrit. Mmh. Donc il suffit simplement soit d'être là en conférence où je les présente, mmh, ou alors de prendre contact avec moi et donc il n'y a pas de souci.
D'accord, et on peut te contacter comment, Martine ?
Alors, vous pouvez me contacter donc par téléphone ou par Internet.
D'accord.
D'accord.
Donc, le numéro de téléphone, donc c'est le 09 81 31 42 96.
D'accord. Donc le préfixe pour la France
00 33 981 31 42 96, et par mail également, je suppose.
Merci, merci de rectifier. Donc, et par mail, oui, donc martine.klein, K-L-E-I-N-C-A-2-F, comme François I-E-R, je répète, Klein, K-L-E-I-N-C-A-2-F, comme François I-E-R, point, arrobas, gmail.com. Ce sont les deux noms de mes parents. Donc,
Klein, voilà, donc c'est martine.kleincafier@gmail.com et kleincafier en un mot tout simplement.
Oui, ce sont les noms de mes parents.
D'accord. Voilà. Et nous aurons le plaisir de te retrouver, Martine, donc, en conférence le 19 janvier à Franley-en-Vin, donc en Belgique.
Voilà,
avec
demi-heure de Lille.
Et je vous remercie donc pour cette opportunité que vous me donnez de transmettre un peu, voilà, un petit peu de je pense, d'espoir peut-être, j'espère, en tout cas pour ceux qui justement vivent des situations difficiles comme celle-là. Et donc je vous dis à bientôt.
Avec plaisir.
Merci à toi, Martine, pour
et
ces échanges.
Le 19 janvier à la conférence, donc à 15h à Franley-en-Vin. Merci beaucoup.
Merci Martine, à bientôt.
Merci Martine Klein pour cette émission Enquête spirituelle. Martine, évidemment, que vous pouvez retrouver sur les anciennes émissions également, www.enquête-spirituelle.com. Et Amy, tu voulais revenir justement là-dessus par rapport au message justement que l'association fait passer.
Voilà, c'est qu'on ne détient pas la vérité, on n'est pas là pour vous convaincre, on est là pour donner des outils, des pistes de réflexion, et on est surtout là pour transmettre, pour partager avec vous. Et justement, on donne la parole à nos auditeurs pour vous aider, pour vous donner tous ces conseils, etc. Et également donc sur le fait de oser, Enquête spirituelle, Laurent et moi-même, on est là aussi pour oser et continuer à faire ces émissions, et c'est grâce aux auditeurs qui nous écoutent via le podcast. Alors merci à vous tous et à très bientôt.
À très bientôt, et on rappelle donc la conférence de Martine Klein, c'est dimanche prochain, le 16 janvier à
19.
Le 19 janvier, pardon, voilà, j'ai inversé le 6 et le 9, à la salle Magritte à Franley-en-Vin, donc à 30 minutes de Lille. C'est la région tournaisienne, juste à la frontière française, et on vous attend nombreux. À très bientôt pour le nouveau podcast.
À bientôt.
Enquête spirituelle. Vous aimez la lecture? Procurez-vous un de nos magazines. Découvrez des dizaines d'articles avec des auteurs de tous horizons, ainsi que de nombreux témoignages. Cliquez sur www.enquête-spirituelle.com et rendez-vous dans la boutique.